Bonjour, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus, afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Alors, à l'occasion de l'épidémie, la façon de mesurer l'activité économique s'est trouvée complètement bouleversée, François.
Une vraie révolution. C'est vrai que jusqu'ici, la méthode pour évaluer le niveau d'activité économique, elle est relativement primitive. C'est la même depuis des dizaines d'années. Il s'agit d'enquêtes de conjoncture. C'est-à-dire que on envoie des questionnaires qui sont très détaillés aux chefs d'entreprise ou aux ménages, puis on leur demande comment ils vont, s'ils ont l'intention de dépenser, d'investir, de consommer. Il y a deux types d'enquêtes très sérieuses en France. Celles qui sont faites par l'INSEE, notre Institut National de Statistique, et celles qui sont faites par la Banque de France. Banque de France qui est très réputée justement pour ses enquêtes auprès des entreprises. Le critère de qualité de ce travail, il est double, hein. Bien sûr, il y a la qualité de l'échantillonnage auprès duquel on s'alimente. Il faut quelque chose qui est représentatif du tissu économique français. Plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, c'est mieux que plusieurs milliers parce que ça donne plus un panorama plus large. Et puis évidemment la qualité des questions, là, dans un cas comme dans l'autre, pour l'INSEE comme pour la Banque de France, on a affaire à des gens de très bon niveau, qui sont des économistes très pointus, donc on était à peu près équivalent. Le problème, c'est que cette méthode ne marche pas dans les périodes de retournement brutal, à la hausse comme à la baisse. Et notamment à la baisse comme on l'a connu au moment du confinement, parce que en l'espace de quelques jours, les perspectives économiques ont complètement changé à cause de l'arrivée de ce virus, du fait que on a dû confiner, hein, souvenez-vous, c'était à la mi-mars de façon très brutale, d'où l'idée de recourir à d'autres indicateurs, des indicateurs non conventionnels qui jusqu'ici étaient récusés d'ailleurs par les statisticiens, qu'on appelle des indicateurs à haute fréquence.
Donc ce que vous nous dites, François, c'est qu'il existait des indicateurs pour période de temps calme en quelque sorte, et pas du tout pour les périodes de tempête. Mais alors,
oui, absolument.
Alors est-ce que ce sont des mesures de l'activité de certains secteurs à partir de lesquelles on va extrapoler tout ce qui se passe pour l'économie?
Il y a de cela en effet, et notamment l'analyse des tickets de cartes bancaires. Vous savez, en fait, toutes les données sont collectées, centralisées par les émetteurs de cartes, carte bleue ou Mastercard, American Express. Alors c'est bien sûr non nominatif, mais on collecte le nombre de transactions au jour le jour, et puis le montant moyen. Et tout ça nous donne quand même un indice de la propension à consommer des ménages en instantané. Et du coup, c'est vrai qu'on peut extrapoler à partir de là ce qui se passe aussi dans les commerces classiques où on paye avec des billets ou avec des chèques, parce que l'échantillonnage est suffisamment large pour être représentatif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des indicateurs qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des espèces de métaphores de l'activité économique, comme par exemple la consommation d'électricité, qui est très corrélée à l'activité de l'industrie. Pour alimenter les industries et les machines, il faut de l'électricité, et évidemment corrélée aussi à l'ensemble de l'économie de façon plus large. Du coup, quand on voit comment l'électricité évolue, comment la consommation d'électricité évolue, eh bien on a une idée à peu près fidèle, hein, de l'activité économique. Du même genre, il y a ce qu'on appelle la mesure de la mobilité avec les navigateurs qu'on a tous dans nos téléphones, c'est-à-dire le nombre de trajets faits par chacun de nous au cours d'une journée. C'est vrai que ça avait été très spectaculaire au moment du confinement. On a vu que le nombre de trajets et le nombre de kilomètres faits avaient chuté de 80%, hein. C'est-à-dire que pendant le confinement, on était à 20% de ce qui se passait la semaine d'avant. Autre indicateur très étonnant, mais au fond assez juste, c'est la mesure de la pollution, et en particulier de la pollution au NOx, N-O-X. C'est l'oxyde d'azote qui est émis à la fois par les usines et puis par la circulation automobile. Donc il y a une corrélation assez étroite quand la machine économique tourne à plein régime, à la fois au plan industriel et avec la circulation automobile, eh bien, le niveau de pollution augmente dans l'atmosphère. Le dernier reconfinement, lui, vous savez qu'il y a quelques jours, la Banque de France a publié des évaluations de l'impact économique, en montrant d'ailleurs qu'il serait probablement beaucoup moins important que celui du premier confinement. Et pour faire ça, on a utilisé notamment la mesure du bruit dans les villes. Parce que là aussi, il y a corrélation entre le niveau de décibels émis par les voitures, les industries, et puis l'activité économique. Et quand les décibels baissent, ben, il y a toute chance pour que l'activité baisse aussi. L'autre grande famille d'indicateurs à haute fréquence, c'est le comportement des internautes, qui est mesuré évidemment par les moteurs de recherche. Il y a ce qu'on appelle les trends, c'est-à-dire les mots ou les expressions les plus recherchées qui témoignent de un peu de
L'intérêt,
l'ambiance.
les centres
Oui, c'est ça,
d'intérêt.
et puis de l'humeur de chacun d'entre nous. Si on voit apparaître beaucoup le mot chômage, en général, c'est que les gens ont peur et que justement la consommation va ralentir. À l'inverse, il y a des mots positifs comme Noël, qui eux annoncent plutôt une reprise de la consommation. Ça va d'ailleurs jusqu'à mesurer le nombre de commentaires sur des sites comme Airbnb. Évidemment, pendant le confinement, on a vu ce nombre de commentaires a chuté de 99%, et pour cause, hein, il n'y avait plus de voyages, donc plus de clients d'Airbnb, donc plus de commentaires pour apprécier la qualité de tel ou tel logement.
Alors, toutes ces indications données par les indicateurs, elles sont, d'abord, ce sont des indications qui sont séduisantes, hein, telles que vous le racontez, François. C'est, voilà, on se dit, là, on a quand même une photo intéressante. Mais est-ce que c'est aussi fiable que les enquêtes au long cours des organismes spécialisés?
Tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est vrai que pour la mesure instantanée, c'est hyper fiable. Et beaucoup plus que. Une fois qu'on a établi la bonne relation, hein, de corrélation, on sait par exemple que voilà, une augmentation du ticket moyen de carte bleue de 5%, ça correspond à une croissance de la consommation de 1,5%. Eh bien, une fois que cette relation est documentée par un historique suffisamment long, on a des choses qui permettent d'appréhender en temps réel l'évolution de l'économie de façon très, très fiable. Mais vous savez que l'autre intérêt de ces enquêtes, c'est la fonction prédictive, c'est-à-dire de faire des prévisions. Ça peut être utile, hein, pour justement conduire une politique économique que de savoir dans quel état d'esprit les chefs d'entreprise et les ménages se trouvent et s'ils s'apprêtent plutôt à ouvrir leur portefeuille ou au contraire à stocker tous leurs gains dans leur bas de laine. Ça permet de développer des instruments qu'on appelle contracycliques, hein. Quand les gens ont peur, ben, on essaie justement de les rassurer pour qu'ils continuent à consommer. Et à l'inverse, quand ils ont une propension un peu trop forte à consommer, eh bien, on les dissuade de façon à ce qu'il n'y ait pas de surchauffe. Donc, on a besoin de prévisions économiques, c'est très important. Et là-dessus, les indicateurs à haute fréquence ne nous apportent pas grand-chose. Ils ne sont pas très utiles. Il faut finalement des entretiens avec les acteurs économiques beaucoup plus subtils, où justement ils livrent davantage leurs sentiments, et c'est ça qui permet de faire des bonnes prévisions.
On comprend bien donc l'intérêt de ces nouvelles mesures dans les périodes exceptionnelles, comme celles que nous vivons, comme cette année. Mais est-ce que c'est vraiment utile alors en temps normal?
En fait, le risque, c'est le bruit statistique. Trop d'infos tue l'info, hein. C'est-à-dire que l'excès d'infos paralyse l'interprétation, le sens. Et c'est vrai qu'en période habituelle, quand on a les capteurs qui fonctionnent normalement, c'est pas forcément indispensable. Ça va être un auxiliaire pour confirmer ce que disent les enquêtes, pour l'appuyer, mais ça sera pas forcément déterminant. Parce que bon, finalement, ça peut sembler étonnant, hein, parce qu'on se dit l'économie, voilà, c'est sérieux, il y a des chiffres, c'est des mesures, la prévision, ça doit être sérieux. Oui. En réalité, un bon conjoncturiste, c'est quelqu'un qui a de l'intuition. Il s'appuie sur les chiffres, mais il fait un pari sur l'avenir. Et le pari sur l'avenir, il n'est pas inscrit dans les chiffres. C'est justement la juxtaposition de données de nature assez hétérogène, et puis l'expérience qui fait dire au conjoncturiste, ah, bah, là, attention, ça va se détériorer, ou au contraire, ah, là, ça augmente plutôt. Et c'est comme ça de tout temps. De ce point de vue, disons, la remontée de données en temps réel n'aide pas à faire des interprétations. Ce qui aide, c'est la qualité du jugement, et qui a toujours une part personnelle, hein. Vous savez que certains conjoncturistes se fient par exemple aux immatriculations de poids lourds, parce qu'ils disent, voilà, c'est un bon signal avant-coureur. À partir du moment où les transporteurs achètent des poids lourds, c'est qu'ils sentent une demande. Et s'ils sentent une demande, on retrouve ça dans le PIB 3 ou 6 mois plus tard. Alan Greenspan, c'est l'ancien patron de la Réserve fédérale, la plus grande banque centrale du monde. Lui, il avait un indicateur assez étonnant, c'était les ventes de sous-vêtements masculins. Assez curieusement. Et parce que il y avait un raisonnement économique, hein, c'était au fond, autant les femmes ont une propension à acheter des sous-vêtements qui ne se dément pas pendant les crises ou disons que ça varie un peu évidemment en fonction de la conjoncture économique et du niveau d'emploi, mais pas tellement, autant les hommes, eux, ne se décident à acheter de nouveaux sous-vêtements que quand vraiment ça va très très bien. Et du coup, Alan Greenspan remontait ses taux d'intérêt quand il voyait les ventes de slip aux États-Unis progresser. Vous voyez que l'économie, qui a la réputation d'être la science triste, ne l'est finalement pas tant que cela.
Exactement. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes favorites.